vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 138. Armel Bouvier dans un fauteuil Louis XV. Chers amis, bonjour. Mais restez assis. On vient un petit peu chez vous à l'improviste. Alors, on va regarder un petit peu votre appartement, voir ce que vous avez au mur, admirer votre bibliothèque. C'est une bonne façon de rencontrer quelqu'un, d'être indiscret et de prendre des livres en main. Non, mais restez assis, je remets le livre en place. Tiens, il est drôle votre siège, c'est presque un fauteuil, c'est du Louis XV. Bon, chers auditeurs de Radio Judaïca Strasbourg, si vous calez vos petites fesses sur des tabourets de chez Ikea, vous pouvez fermer la radio, ou alors plutôt mettez le son à fond, car nous accueillons aujourd'hui Armel Bouvier. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, ce fauteuil, vous le connaissez, mais vous le reconnaissez même parce que vous êtes restauratrice de meubles, vous faites du neuf avec du vieux, ou du vieux avec du neuf quand c'est pas des vrais, hein, enfin je sais pas. Et est-ce une occupation passionnante? Est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est un métier? Alors un métier prestigieux.
Ça peut être un hobby, bien sûr, mais moi, c'était un métier pour moi. J'ai tenu un atelier de restauration de meubles à Strasbourg pendant pas mal d'années. Mais j'ai rencontré beaucoup de clientes, essentiellement féminines, qui aimaient bien, par hobby, restaurer des meubles.
Comme ça.
C'est assez
d'après,
courant.
D'après des photos de meubles anciens ou d'après...
Ah non, les hobbies, c'est plutôt des personnes qui ont envie un peu de se salir, de faire des efforts, de se sentir créatif ou que sais-je, et puis qui sont très contents du résultat.
Et de restaurer un meuble sans mettre de clous, sans mettre de vis, en respectant les queues d'aronde, hein, je crois,
quand on passe... Oui, c'est ça, les
queues d'aronde, absolument. Oui,
c'est tout un art, les queues d'aronde. C'est compliqué, disons, c'est un peu délicat à faire, mais enfin, quand on en trouve dans un meuble, on sait déjà qu'il a un peu de qualité.
Voilà.
Pour commencer, mais...
Alors, quelle est j'ai parlé de Louis XV, hein, mais quelle est la période la plus passionnante quand on est restauratrice de meubles, Armel Bouvier?
Je dirais les périodes où les plaquages étaient très épais, où les cols étaient naturels, où le mobilier avait vraiment du cœur, je dirais, enfin, c'est-à-dire où les artisans étaient vraiment très doués.
Oui.
C'est-à-dire que donc vous avez prononcé le nom d'IKEA. Voilà.
Oui.
Et donc on se trouve avec des choses qui ont énormément de charme et de vie. Enfin, c'est-à-dire et notamment, c'est ça, les plaquages, la façon dont les meubles sont construits. Dès qu'ils ont à peu près 200 ans, ils deviennent très intéressants à observer.
Oui.
Et à redonner une petite vie.
Remonter à 1725 pour Louis XV, par exemple. Mais, alors, anecdote, j'ai encore les meubles de mariage de mes grands-parents qui les ont offerts au mariage de mes parents et qui sont toujours dans la maison familiale et qui, donc, ont été construits en 1922.
Oui, j'allais dire années 30, probablement.
Voilà, en 1922. Ouais. Et effectivement, il y a du plaquage. Et c'est un menuisier, je peux dire son nom, Schimpf, à Wissembourg, parce qu'il mettait sa petite plaque avec son nom. Donc effectivement, un siècle plus tard, on retrouve le meuble, et le meuble, il a l'air neuf, quoi.
C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup plus récent que ce dont on parlait avant.
Oui.
Et effectivement, c'était l'époque où, quand on se mariait, on achetait la salle à manger, la chambre à coucher, tout l'ensemble, qui allait ensemble, etc. Et puis donc après, effectivement, les gens, les gardes,
Et les transmettre.
Et les transmettre, mais bon, il y a quand même une génération maintenant qui ne sait plus trop quoi en faire.
Oui, alors, petit message personnel à ma chère fille, chérie adorée, s'il te plaît, récupère les meubles de papy et de mamie. Bon, voilà. Bon, alors effectivement, la génération actuelle, est-ce qu'on a une idée de la proportion de gens qui, alors de ceux qui ont les meubles tout faits, là, qui sont fabriqués à la chaîne, à l'usine et qui durent 5 ans, et puis ceux qui ont encore des meubles, en fait, il faut de la place, il faut des grands appartements, il faut des hauteurs de plafond, tout ça. C'est ça, hein, c'est certainement, qui restreint les transmissions.
Il y a plusieurs choses, oui, il y a la place, parce qu'effectivement, enfin, bon, tout ce qui est plus une armoire est énorme, même si elle est magnifique, moi, on arrivera à la vendre, donc moins elle a de valeur, c'est-à-dire qu'elle a bien sûr une valeur de travail fait, enfin, elle est, ce sont de très beaux objets, mais on ne peut plus les mettre dans nos appartements, et puis un dressing, eh bien, on met beaucoup plus de choses dedans.
Oui.
Et, donc, et puis il y a aussi, je pense, l'aspect sombre, c'est-à-dire que, bon, le bois revient à la mode, mais c'est plutôt des bois clairs, des bois même qui ont été décapés, qui ont été à peine vernis, qui sont mats, le chêne clair, toutes ces choses-là. Et donc une armoire en noyer qu'on n'arrivera jamais à éclaircir trouve moins sa place à l'heure actuelle dans les intérieurs des gens.
Et alors, si on trouve une belle armoire en noyer chez Emmaüs, par exemple, pour 3 francs 6 sous, et qu'on la repeint en jaune vif avec des motifs Andy Warhol,
oui,
on fait un crime
Oui, mais c'est pas grave.
Bon, d'accord.
Chacun doit faire ce qu'il veut avec ses meubles.
Oui.
Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Mais parce que chacun ses goûts, c'est-à-dire que ces customisations, comme on dit, sont toujours plus ou moins réussies, mais c'est une affaire de chacun. On aime ou on n'aime pas, elles peuvent être réussies, ratées, ça dépend des avis des gens. Et donc, moi, je pense que oui, c'est un crime, parce que le noyer est un très joli bois, mais on n'aime plus le bois, donc... Du coup, c'est très bien de le repeindre.
C'est vraiment dommage, voilà. Oui.
Mais alors, c'est dommage, oui.
Donc,
oui,
les gens qui travaillent le bois, comme vous, c'est une vocation.
C'est peut-être une
hasard,
c'est une passion.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le chaudron des meubles?
Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Que j'ai toujours aimé bricoler, donc... Et ça a été un moyen de le faire en tentant de gagner ma vie, après avoir passé plusieurs années un peu trop devant des ordinateurs, ce qui est le lot de tout le monde maintenant, mais je ne voulais plus. Donc j'ai décidé de m'occuper de l'autre partie de moi-même et de travailler avec mes mains.
Voilà. Et est-ce qu'il y a des écoles de restauration?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait une reconversion assez tardive, en plus, à 40 ans. Donc ça, c'est dans la filière reconversion. On peut trouver, bien entendu, des tas de types de formations. Mais si on veut vraiment... si vous voulez, je n'ai pas eu affaire à des mobiliers du patrimoine venant un peu par le bas, par rapport à ceux qui auraient fait de grandes écoles du patrimoine, bien entendu, qui font tout à fait... qui ont accès à des mobiliers de grande valeur et qui font des choses...
Donc vous, c'était plutôt
pour... Moi, c'était
pour plus des...
mobilier familial, en fait.
Voilà.
Voilà.
Est-ce que vous avez vu le film Le Bonheur de Agnès Varda avec Jean-Claude Drouot, qui était connu parce que c'était Thierry Lafronde, et il est menuisier et il répare des meubles.
Ah non, je n'ai jamais vu ce film-là.
Très belle histoire. Ça date des années 60, vous n'étiez pas né, comme
si,
disait...
Si, tout juste, mais bon, oui.
Oui, voilà. Pas né, comme disait chez Findus, là,
c'est
la vieille blague, et tout. Et j'en profite pour vous demander, puisque vous êtes une Alsacienne pure sucre, pas du tout, non, mais je vous ai pas posé la question avant l'émission, mais est-ce que vous aimez la tarte au fromage?
Pas trop, non.
J'ai
aimé le fromage très tard, et alors la tarte au fromage, c'est pas du tout.
Pas du tout, maintenant, parce que c'est un petit
préféré.
Gag qu'on a dans l'émission, à chaque fois, ou presque à chaque fois, on demande aux gens la recette, leur propre recette de la tarte au fromage.
Si, j'ai effectivement une tarte au fromage que j'adore, la recette d'une très bonne amie à moi, allemande, et c'est une tarte au fromage qui ne passe pas au four. Il y a un petit peu de gelée dedans et on la met au frigidaire. Et donc, c'est une crème très, très légère. Et il n'y a pas ce côté un peu plombant.
Chez les Allemands légers, c'est rare, mais...
Oui, enfin bon, ça c'est... Oui. Des...
Non, parce qu'il y a la tarte au fromage de la Forêt Noire qui est étouffe chrétien.
Alors, mais... celle-là, je ne la connais pas, mais pourtant, c'est quelqu'un
on
qui vient
de... On la trouve au marché de la Marne, même.
Ah, d'accord.
Ah, oui.
Mais vraiment, cette tarte au fromage-là, que je n'ai pas faite depuis des années... est très bonne.
Eh ben vous m'inviterez après l'émission.
Il faut que je la retrouve, il faut que je la...
Voilà, eh ben, vous voyez, encore une recette de plus à mettre dans notre, dans notre fichier. Donc. Alors, admettons que c'est le style Maria Leszczyńska, donc Madame Louis XV, qui a été la princesse polonaise de Wissembourg. Hein, c'est pour ça qu'on parle toujours d'elle. Et donc, c'est le style 1750, enfin, elle est arrivée en 1725 à Versailles. Comment, en 2026, on peut refaire un style de cette époque? Si une cliente vous dit, mais j'aimerais un fauteuil...
Faire une comme copie.
Sur... Oui, faire une copie.
Mais il faut aller voir un copiste, alors ce n'est pas du tout le même métier.
Ah, ce n'est pas le même métier.
Oui, c'est ça. Enfin, un fabricant déjà, et en plus, il faut qu'il soit capable de faire... Parce que c'est très difficile.
Oui.
Du coup, puisqu'il faut chantourner, sculpter, enfin, il faut faire tout un tas de choses qu'on ne fait plus du tout.
Et on ne peut pas le faire avec des machines en trichant.
Si, maintenant, certainement, avec...
le 3D, les,
voilà,
tous les machins...
Tout, oui, certainement. Mais bon, comme plus personne ne veut de copie Louis XV, c'est peut-être pas très intéressant. Oui, alors, il vaut mieux en faire autre chose.
Alors, justement, bah, parlons-en. Plus personne ne veut de copie, mais il y a des gens qui font des copies et qui les vendent des fortunes. Et c'est des faussaires. C'est une histoire,
voilà, c'est
absolument...
Autre chose.
C'est une histoire absolument extraordinaire. Parce que, bon, bien sûr, quand on a un meuble original qui date de Louis XV, eh bien, il y a un expert qui va vous dire... Oui, c'est vraiment un meuble de cette... Est-ce que vous pourriez expertiser un meuble?
Non, donc, c'est un autre métier.
C'est encore un autre métier, oui. Ah, c'est vraiment cloisonné, hein. C'est comme...
Oui, enfin, c'est-à-dire, c'est... Le... Moi, c'est avec mes mains et en travaillant le meuble que je me rends compte, après, de son âge ou pas, enfin, de... aussi de l'amour que peut avoir eu l'ébéniste qui l'a fabriqué. Oui. Enfin, il y a des choses touchantes pendant qu'on restaure un meuble et qui peuvent...
C'était dans le quartier Saint-Antoine à Paris, hein, je crois qu'il y avait tous
c'est
les
ça,
ébénistes.
C'est ça, mais, mais voilà, tous les ébénistes qui faisaient des copies, beaucoup.
Ah, hein, oui.
C'était, c'est pas forcément des restaurateurs de mobilier, là, c'était des fabricants.
Voilà.
Mais bon, bah, tout s'est un petit peu cassé la figure parce que plus personne ne veut de copies. Il y avait encore, pas loin de Strasbourg, une grosse menuiserie qui fabriquait des copies, mais ils ont arrêté. Enfin, au fur et à mesure, tout ça s'arrête.
Alors justement, moi j'ai évoqué le fait qu'il y a des experts... pour authentifier un meuble d'époque, c'est l'expert qui était le faussaire.
Oui, parce qu'il est bien placé pour ça, oui. Parce que,
en mèche avec le revendeur.
Oui, oui.
Et même les propriétaires, entre guillemets, de la connaissance et enfin, du patrimoine à Versailles se sont fait avoir. Et alors, c'est des meubles qui se vendaient 1 million.
Mmh. Oui, j'ai vu même des 200 000 euros, etc. Enfin,
200 000 euros,
un million,
un million l'ensemble.
Quelques centaines de milliers d'euros, la chaise, oui, oui. Ou le fauteuil.
Et est-ce qu'on s'assoit encore sur des chaises comme ça de cette valeur?
À mon avis, il vaut mieux pas, mais
oui.
Tout dépend si la tapisserie a été rénovée ou si c'est celle de l'époque, parce qu'alors là, il vaut mieux pas
alors,
s'asseoir.
J'imagine, là, parce qu'on est à la radio et on est là pour rigoler, pour faire la paix dans le monde, M. Macron invite M. Trump à Versailles, hein, et en lui disant, maintenant on arrête les bêtises, vous rendez la... Alors d'ailleurs, il veut pas seulement le Groland, il veut l'Alsace. Mais comme il n'est pas bon en géographie, on lui a dit, vous prenez la Moselle, ça ira.
C'est ça.
Donc, c'est encore une autre blague. Et donc, imaginons que Trump veuille s'asseoir sur le fauteuil Louis XIV d'origine et tout. Est-ce que c'est dangereux, entre guillemets, pour le meuble, pas pour l'histoire de l'humanité, mais est-ce que les meubles qui ont 200 ou 300 ans ont gardé leur solidité ou non?
S'ils n'ont pas été envahis de ces petites bestioles qui font des petits trous à l'extérieur, mais qui rendent l'intérieur des bois véritablement c'est de la poussière après. C'est-à-dire qu'il peut arriver, si ça a été attaqué par les...
Par les mites.
Par les, c'est pas des mites, les mites, mais les, pardon, les vrillettes. Les vrillettes, qui sont donc des petites mouches qui viennent pondre. Et le trou que vous trouvez dans les meubles, enfin les nombreux trous que vous trouvez dans les meubles, sur les meubles, c'est le trou de sortie de la mouche à sa naissance.
Ah.
Voilà, et alors pendant le petit ver, s'est nourri du bois pendant tout le temps de sa croissance, et du coup il ne reste plus rien, c'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé pour des armoires alsaciennes qui ont des gros pieds ronds, de commencer à vouloir les traiter, pour, et puis de me dire que c'était quand même dangereux, ça risquait aussi que les bêtes envahissent tout le meuble. Alors après, avec mes jeunes stagiaires que j'avais souvent à l'atelier, on s'est amusé, après avoir décidé de refabriquer ce pied rond, à le scier en deux pour voir, et à l'intérieur, il n'y avait plus rien de solide. Ah oui, donc là, le danger pour Trump, c'est de s'écrouler parce que les pieds cassent.
Oui, alors voilà. Bon, il y a bien Molière qui est mort sur son siège sur scène. D'accord. Non, mais on est aussi là pour faire de la fiction. Mais les faussaires, c'était pas des.
Ben, ils faisaient de la fiction, oui, justement.
Ils faisaient de la fiction et ça a bien marché. Alors, ouais. Alors, on parlait de Louis XV. Est-ce qu'il y a un style pour tous les Louis?
Oui, il y a un style pour tous les Louis, mais je ne suis pas sûre que les Louis eux-mêmes aient une influence. Hein. C'est-à-dire que je dirais que c'est la création qui évolue et que la génération suivante veut faire différente de celle d'avant, ou bien les techniques évoluent, etc. Donc, ce qui fait que les styles évoluent. Puis après, on les a appelés Louis XV, Louis XVI, parce que
d'accord.
C'était à ces époques-là.
Oui, on ne disait
mais
pas.
Mais bon, je ne sais pas tout. Peut-être que Louis XVI a décidé qu'il en avait marre des courbes et qu'il voulait des meubles bien droits. Mais oui. C'est plutôt les créateurs, les grands ébénistes qui font évoluer les choses. Et puis après, les gens de pouvoir, ou les gens qui aiment, sont intéressés par la nouveauté et trouvent le nouveau style super et l'adoptent.
Mais alors, quand aujourd'hui on parle du fauteuil Voltaire, qui est très connu parce qu'il c'est confortable, pour bouquiner, on se love dedans, est-ce que Voltaire était au courant qu'il
Il semble que non, parce que le fauteuil Voltaire est plus tardif.
Il deviendrait célèbre grâce à un fauteuil. Accessoirement, il a écrit quelques bouquins. Oui.
Mais pas dans un fauteuil Voltaire.
Non.
Il semble-t-il.
Alors, il avait quoi comme chaise?
Alors, je ne sais pas, mais j'ai déjà vu des gravures où il avait quand même une chaise avec une tablette, un fauteuil qui semble un peu être un fauteuil Voltaire relativement bas. Mais je ne crois pas que c'était vraiment le fauteuil Voltaire. Après, il faudrait peut-être demander à un expert.
Voilà.
Il saurait vous dire, mais...
Plus tard, après les Louis, il y a eu le grand Charles, qui a fait rentrer à l'Élysée des meubles avec des... Alors, c'était des designers, là, à ce moment-là.
Alors, Grand Charles, c'est plus tard.
C'est plus tard,
sans
c'est Pompidou.
Sans vouloir vous contredire. Voilà,
oui.
C'est Pompidou
Alors, c'est
qui
Pompidou,
a commencé.
C'est Pompidou, le premier, oui.
C'est ça, ouais. Je crois que c'est Pompidou qui a commencé.
Pompidou, il s'appelait comment? Paulin, non
Et c'est adressé à des grands du design de l'époque, dont Pierre Paulin, oui, qui a
Paulin,
fait un très beau...
C'est Madame Pompidou, je crois, qui était...
Voilà, c'est elle qui était très... C'est ce qu'on dit, je ne l'ai pas connue personnellement, mais très intéressée par l'art contemporain et le mobilier contemporain.
Oui,
voilà. Et donc, ils ont fait beaucoup de choses. Et après, Mitterrand a suivi. Il avait un bureau très célèbre, qui est célèbre, mais j'ai oublié le nom du designer. Donc c'est
alors, il paraît que tous ces meubles font partie donc, du patrimoine, le mobilier
de France,
qui est géré par l'équivalent de la DRAC au niveau national. Et puis, lorsque l'on devient ministre ou sous-préfet ou autre chose, cet organisme vous prête des meubles pour donc habiller votre bureau. Puis ensuite, après, il faut les rendre en bon état.
Oui, mais il semblerait que certains se soient servis.
Oui,
n'aient pas rendu
ça.
Les meubles
rendu,
de
oui.
grande valeur. Et que ce soit, je ne connais personne là-bas, mais ça m'a l'air d'être très, très bien géré. Parce que je crois qu'il y a eu des époques, même contemporaines, je veux dire du XXe siècle, où ce mobilier français a été un peu pillé.
Quand le ministre rendait son tablier, il emmenait les...
Il ne rendait pas les chaises, mais je crois que c'est arrivé.
Voilà. Alors, on a parlé donc du style Pompidou, mais quand même, avant, il y a eu l'art nouveau et l'art déco. Est-ce que vous aimez ces deux arts?
Moi, je me rends compte qu'on évolue. J'ai beaucoup aimé à certains moments l'art nouveau, surtout ayant étudié à Nancy. Mais maintenant, ça m'intéresse moins. L'art déco, peut-être un peu plus, parce qu'effectivement, c'est un peu intemporel. Enfin, c'est relativement moderne.
On en trouve encore... Oui.
Mais après, tout ça, c'est affaire de goût personnel, c'est-à-dire que chacun peut aimer ce qu'il veut et ne pas aimer. Voilà, et donc, l'art nouveau, c'est... Disons, le mobilier, moi, j'aime beaucoup les objets décoratifs et la bijouterie, mais quand on met l'art nouveau, une maison entièrement meublée en art nouveau, c'est un peu sinistre, quand même.
Hein. Oui.
Pardon, mais je trouve pas que ça soit très rigolo.
Bon, alors, est-ce qu'il y a un style? Alors, il y sera pour rien, mais est-ce qu'il y a un style Macron?
Alors, non, je pense pas qu'on dit... Maintenant, on ne dit plus ça. On ne dit pas style Pompidou. Enfin, Pierre Paulin, c'est pas le style Pompidou. C'est Pierre Paulin,
voilà.
etc. Enfin, je veux dire, je ne sais pas pourquoi. Là, il faudrait s'adresser plus à des historiens. Pourquoi tout le mobilier du 18e et même jusqu'au milieu du 19e est nommé en fonction des gouvernements, pour ainsi dire? Et bien, c'est plus le cas.
Parce que ce sont des jalons, peut-être simplement...
Oui, je pense. Mais c'est aussi parce que, bien évidemment, Ils étaient intéressés par la nouveauté et ça leur plaisait. Ils avaient les moyens et ils faisaient des grosses commandes de mobilier de valeur. Et chacun devait marquer son territoire.
Oui, oui, c'est ça. Oui, donc on s'amusait à soit on construit une pyramide quand on a les moyens, soit on donne la forme de ses fesses à un fauteuil. D'accord. Et Armelle Bouvier, bien sûr, vous ne faites pas que de la restauration de meubles, vous faites plein d'autres choses. Alors, je sais que vous avez été architecte intérieur à Berlin.
Mm-hmm, oui.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Berlin?
Mais j'y suis allé un peu par hasard. C'était quoi? C'était plus ou moins un Erasmus au départ. Et puis, finalement, j'y suis resté un peu. Et c'était très intéressant. C'était cette petite île de Berlin-Ouest à l'intérieur de la RDA. Et puis, le mur est tombé. Voilà, je suis rentré à Paris et à ce moment-là, le mur est tombé.
En novembre 89.
Et voilà, en novembre 89. Moi, n'ayant aucune notion de politique, enfin, je ne savais pas du tout que ça allait... Comme tout le monde, enfin, mais il semble que les hautes sphères le savaient. Et puis alors après, mais j'y suis retourné parce qu'il y avait beaucoup... Parce que c'est une ville très intéressante et il y avait beaucoup de travail pour les architectes, bien sûr.
Ah, voilà.
Et même si vous ne parliez pas allemand, ce n'était pas grave. Parce que,
donc, est-ce que... on raconte que tous les gens de la RDA sont partis à l'ouest et des gens récupéraient les vieux meubles traditionnels du début du siècle là-bas pour des bouchées de pain et qui sont maintenant très à la mode.
Les mobiliers fabriqués pendant le temps de la RDA?
Ou même avant.
Vous voulez dire,
ou
même avant.
Qui restait, oui.
Mais de toute façon, toute cette époque, à partir du début du XXe, est très à la mode. Hein, dès que c'est les années après-guerre, 50 et tout ça, c'est hyper à la mode à l'heure actuelle. Mais effectivement, il y avait tout un... Enfin, moi-même, j'étais très fan de puces. Et je regrette de ne pas avoir rempli des garages avec tout ce qu'il y avait aux puces à Berlin.
Ah oui.
Parce qu'effectivement, il y avait des trucs...
C'est un regret qui peut faire une belle conclusion. C'était l'épisode numéro 138, Armelle Bouvier dans un fauteuil Louis XV. Alors, toujours une dernière question avant ça. C'est peut-être une déformation professionnelle, mais lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, est-ce que la première chose que vous faites, vous regardez ses meubles?
Oui, en faisant semblant de ne pas voir. Mais je suis très, très curieuse. On apprend. Avec mes différents métiers, je suis entrée dans énormément d'intérieurs. Et c'est très instructif, c'est très amusant. J'adore ça.
Et vous rigolez tout le temps. Vous êtes une cliente, comme on dit, à la radio, absolument formidable. Vous avez un éclat de rire formidable. Alors, chez vous, vous avez des meubles anciens?
Un peu de tout, j'ai un mélange. Enfin, et comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, les restaurateurs aussi, c'est-à-dire que mon mobilier n'est pas du tout en bon état.
Et vous n'avez personne pour le, restaurer.
Voilà. Mais bon, je peux t'y mettre.
J'imagine qu'on ne met jamais de clous dans ces cas-là. Planche pour que ça retienne derrière, on se dit ça ne se voit pas.
Non. Aussi, on peut.
Les chaises, de toute façon, on peut toujours le faire. C'est un sacrilège.
Non, le clou n'est pas un sacrilège, il clouait.
Oui.
Les clous, les vis ont toujours existé. Le sacrilège serait d'utiliser une vis cruciforme pour un meuble du 18e dont les vis sont fendues, par exemple. Ça, c'est un interdit.
Ah, d'accord.
Voilà.
Très bien. J'adore les interdits. Alors, vous l'avez bien connu, une émission diffusée tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Alors, la semaine prochaine, nous parlerons d'amitié au-delà des frontières et des effarements de nos valeurs morales, puisque nous recevrons Phil Choukroum, le président de l'association Alsace-États-Unis. À la technique, Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.